95.7. Chronique judiciaire avec Maître Julien Bouliane. Pour le joindre, 542-8111.
Mais on tabarouette, me suis fait voler mon intro.
Ah, c'est quoi cette affaire-là?
Hijacké par Maître Bouliane.
Mais c'est Maître...
Maître Quentin, que vous entendez, évidemment. Bonjour, bon retour.
Salut, bon retour, on est revenu.
Peut-être s'enligner sur le micro un petit
peu. On est revenu, mais beaucoup de travail.
Ouais, hein?
Ça donne un choc.
Un choc.
Trois semaines dans les URSS en Russie, c'était vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire.
Alors, on va en parler dans quelques instants parce que ça m'intéresse. Au fond, on a commencé à parler hors d'ordre un petit peu, puis on va poursuivre la discussion, mais peut-être juste un petit dossier judiciaire aujourd'hui qui nous intéresse. Hugo, on a parlé aux nouvelles aussi. C'est cette semaine un gars qui s'appelle Olivier Tremblay-Brisson et qui a été pris dans une histoire de vol de résidence pour plus de 25 000 $ volé chez son voisin. Son voisin était parti dans le sud. Mais ce qui est intéressant, c'est que les policiers l'ont retracé grâce à l'ADN sur un mégot de cigarette qu'il avait oublié sur place.
Ouais.
Fumé sa top. Puis ça à terre innocemment, puis on a retrouvé le mégot de cigarette en question. Est-ce que les policiers peuvent faire n'importe quoi avec une question de trace d'ADN? Tu sais, on écoute District 31 ici à la station, il y a bien du monde qui écoute ça, puis ils ont toutes leurs petites tactiques pour aller récupérer de l'ADN. Des fois, ça peut matcher parce qu'il y a des casiers judiciaires, puis il y a déjà de l'ADN qui a été pris, j'imagine. Mais c'est quoi les balises qui encadrent ça, la prise de l'ADN? Est-ce que quelqu'un est obligé de donner son ADN?
Ben, ça dépend. S'il y a une ordonnance judiciaire à cet effet-là, oui. S'il n'y a pas d'ordonnance, c'est une autre affaire. Souviens-toi du dossier de Kenogami, l'agression sexuelle dans la ville de Kenogami.
Oui.
C'est sur un botch de cigarette ou un mégot de cigarette. Les jeté par l'accusé. On suivait l'accusé. Il a jeté un mégot de cigarette. Ils ont analysé le mégot puis ils ont trouvé l'ADN. C'est comme ça qu'on l'a eu, lui. Fait que, mais c'était libre et volontaire, c'était pas une perquisition abusive ou illégale. Donc, souvent, on voit que dans des introductions par effraction où l'individu se blesse,
ouais.
En cassant une vitre, se blesse à la main, échappe un peu de sang sur les lieux, c'est de l'ADN. Il retrace le voleur ou l'individu qui était sur les lieux. À ce moment-là, il faut que tu expliques ta présence sur les lieux.
Mais pour faire le match... Parce que, exemple, moi, Simon Tremblay, j'ai pas de casier judiciaire. Ils ont assurément pas de traces d'ADN de moi nulle part. Ils peuvent pas... Si je décide à ce soir de faire un vol, je me coupe, ils ramassent du sang, ils sauront pas c'est à qui ce sang-là.
Ben, c'est ça. C'est sûr que à ce moment-là, s'il y a pas de match, comme tu le mentionnes, ça va être plus difficile. Il va falloir qu'ils te retracent, il va falloir qu'il y ait un élément de preuve qui t'associe à ça. Mais okay. On leur banque de données, etc., etc. Comme quand, souvent, il y a des prises d'ADN dans des dossiers, on demande l'ADN, bon, c'est souvent se faire des banques de données pour éventuellement retracer quelqu'un qui aurait commis un crime quelconque.
S'ils pensent, peut-être, grâce à une preuve, que ça peut être moi, c'est-tu comme à TV, c'est-tu comme dans District 31, ils vont venir ici à la station, puis avec ma tasse à café, aller recueillir ça, puis...
Ben, ils vont tenter quelque chose, là. Mais soit qu'ils vont aller chercher une autorisation légale ou judiciaire, ou soit que, sur une base volontaire, ils vont réussir à t'extirper de l'ADN. Parce que, effectivement, un mégot de cigarette, des empreintes digitales également, sur un verre, sur une bouteille.
Des cheveux.
Des cheveux. Tout ce qui est palpable sur le plan génétique peut t'amener devant les tribunaux assez. Puis ça devient une preuve qui est extrêmement difficile. Ça devient une preuve qu'à partir du moment que c'est une possibilité sur 14 millions que ce soit pas toi, le doute raisonnable est plus difficile à installer dans cette marge-là.
Mais de l'autre côté, ça peut innocenter des gens.
Absolument.
On l'a déjà vu, même des gens qui ont fait de la prison.
Absolument. Même, je pense, David Milgaard, qui a fait 23 ans de pénitencier, a été innocenté suite à une question d'ADN. Puis il y avait eu des aveux également de Larry Jackson, un gars de Saskatchewan qui avait pris un peu le meurtre sous son aile.
Voilà. Bon, on nous dit par texto qu'il y a des orages à Dolbeau, à La Dorée.
C'est
étonnant que ça puisse paraître à Saguenay où il fait extrêmement beau. C'était pas tant prévu, mais en tout cas, au Lac-Saint-Jean, des orages. Espérons que ça passe assez vite.
Oui.
Maintenant, on va parler de l'Elbrouz.
L'Elbrouz, la montagne blanche.
Comment ça a été? Parce que je sais qu'en mon absence, Fred avait réussi à vous rejoindre pour parler un petit peu.
Oui, moi, il m'a rejoint. On était à ce moment-là à Tcheguet.
OK.
Tcheguet, qui est une ville entre Terskol, où on a débuté l'ascension, et le sommet. Là, on est à peu près à Quand on est à Tchéguette, on est à peu près à 2500 mètres, 3000 mètres. Donc, c'est extraordinaire. D'abord, l'ascension en tant que telle, la qualité du paysage, la découpure des montagnes, c'est à couper le souffle. Là. C'est vraiment une chaîne de montagnes que dans le Caucase que je croyais pas aussi belle. L'Elbrouz en tant que tel, c'est drôle parce que c'est tout un amoncellement de pics rocheux. Ça ressemble un peu à l'Himalaya, ça ressemble un peu à la Cordillère des Andes. Mais en plein milieu de ça, t'as comme deux grosses boules de crème glacée.
OK.
Fait que c'est vraiment un promontoire, là, une protubérance montagneuse qui est extraordinaire, tout en glace. La difficulté de la montée, c'est le froid, la neige et la glace parce que là, tu y vas en crampon. Pour une expédition, écoute, on commence à 3 heures du matin, puis on va revenir après, dans l'après-midi. Là, puis quand je suis parti à 3 heures du matin, j'ai commencé à geler à 3h30. J'ai dit, il m'en reste pour 8 heures. Il dit, ça va pas bien. J'ai commencé à geler des pieds un petit peu, mais dès que le soleil se lève, à ce moment-là, c'est comme un feu de joie. Là ça retentit sur la glace. Par réverbération, ça te réchauffe de façon instantanée. J'ai pogné un coup de soleil sur la lèvre inférieure. Je peux te dire que je vais m'en rappeler longtemps. Ça te prend des lunettes catégorie 4 parce que les rayons de soleil sur la glace, ça peut te rendre aveugle. Puis, écoute, on était plusieurs équipes. On a fini dans les premiers. On avait une équipe Thaïlande avec nous autres. L'équipe Thaïlande a dû finir 4-5 heures après nous autres. La montée nous a pris 6h30, puis on nous a mentionné que le record était de 5h30 pour des équipes amateurs.
Ah ouais?
Fait qu'on a quand même. Bon? On a Team Canada, on a très, très, très bien fait ça. Les Russes étaient contents de nous autres. C'est un organisme qui était très, très sérieux, prenait notre saturation d'oxygène à tous les soirs, notre tension artérielle, notre pouls. Bon, puis on faisait nous autres, on faisait même les tests nous autres mêmes. Surveiller un peu ce qu'on mangeait, puis vérifier nos capacités physiques tout le long de la montée, tout le long de l'ascension. Voyez, est-ce qu'on conserve notre rythme? Parce qu'à un moment donné, tu as le goût d'arrêter, mais si là, si t'es au bout de 100 mètres, tu demandes d'arrêter deux fois, là, à un moment donné, c'est inquiétant, parce que ça peut arriver que ça t'arrive. Mais ça a quand même très, très bien été. On a réussi, on a pris des photos en haut, c'est des photos à couper le souffle. On a mis quelques-unes sur le net. Mais imagine, t'as accompli ça, et t'es rendu en haut, mais là, il faut que tu redescends.
C'est pas plus facile.
Ah, Seigneur, c'est pas... Ça a un coefficient de difficulté différent. C'est parce que tu peux te blesser. T'as un crampon dans les pieds, la neige est un petit peu plus folle, l'enivrement également de la montée, t'as réussi, t'as fait
ton
le sommet.
Ton trip est fait, faut que tu redescendes.
Faut que tu redescendes. Mais après la descente, là, c'est la joie. Là, il te reste une dizaine de jours pour récupérer. T'as la Russie devant toi. On a resté dans le Caucase quelques jours. Après ça, on s'est transporté à Saint-Pétersbourg, qui est une ville incroyable. On est revenu en auto, direction Novgorod, une ville impériale. Après ça, on a décidé qu'on allait voir le show de Kiss. Puis là, on a fait 5-6 jours à Moscou. Écoute, c'est mémorable. On était quatre voyageurs qui s'entendaient à merveille, des bons coéquipiers. On veut répéter l'expérience. On avait une bonne équipe.
Ben à quatre, justement, vous étiez le plus jeune des quatre?
Non, j'étais le plus jeune. Petite anecdote, quand on est arrivé au camp de base, c'est Julien qui me l'avait fait remarquer, c'était interdit aux 50 ans et plus.
Oh.
Moi, j'ai 50. Il faut avoir 56 ans.
Oui.
Fait que là, les gars, ils ont dit, c'est vrai, on n'a pas vraiment tenu compte, mais à partir du moment que tu as un bon background de montagne, de grimpeur, ou quand minimalement tu as fait au moins un des 7 sommets, ça devient plus facile. Ils vérifient aussi ta condition physique, ils te voient à l'œil. À un moment donné, tu fais ta première montée, tu fais 1000 mètres dans la roche, puis tu n'arraches. Ils vont le voir tout de suite. Là. Si t'es fringant, puis tu soupes le soir, puis tu joues aux cartes, puis il n'y a pas de problème, ils le voient aussi. Là.
Mais justement, à quatre d'âges différents, conditions physiques quand même différentes aussi, est-ce que ça arrive des fois qu'il y en a un qui traîne un peu plus? Ou,
dans notre cas, ça a moi, je traînais un peu dans les 3-4 premiers jours. Okay. Sincèrement, les gars étaient plus rapides que moi. Mais à la fin, dans les deux derniers segments, on était les quatre qui se suivaient. C'est moi qui donnais le rythme. Bon, c'est peut-être pas étranger à mon âge, là. Ils m'ont mis en premier. Puis c'est moi qui donnais le rythme pour les trois autres. Puis ça a super bien. D'accord, écoute, on l'a fait en 6h30, qui est un très, très, très bon temps. Puis on n'a pas cassé une fois. Là. J'ai pas demandé une fois d'arrêter pour prendre une pause. Là. C'est le guide qui a imposé la pause. Fait que faut croire que ça a très, très bien été. On s'entendait vraiment très bien. En voyage, c'est là que tu apprends à connaître quelqu'un. Hein?
Et oui.
Si ça ne fait pas avec quelqu'un, là, c'est en voyage que tu vas le voir. D'abord, tu cohabites, tu prends l'avion, tu prends le train, tu prends le bateau, tu prends l'auto.
Tu prends des décisions.
Tu prends des décisions. On mange quoi? On va où? Il n'y a pas eu l'ombre d'un esclandre ou d'une chicane. C'était vraiment... C'était toujours correct. T'es allé au théâtre Bolchoï. Tout le monde était content et ravi de ça. C'est drôle parce que le théâtre Bolchoï, moi, après 2 heures, il y a un entracte. Moi, je pensais que c'était fini. Mais c'est 4 heures. Mais ouais, après 2 heures, c'était correct. Là. L'histoire de Don Carlos, je suis allé voir un petit peu sur Wikipédia et tricher un peu. Là. Mais là, j'étais correct. Mais c'est de magnifique. Le théâtre,
c'est des belles salles, mais...
C'est terriblement beau.
Moi, l'opéra, ça m'emmerde.
Ouais, mais c'est, ouais. Écoute, c'est faut le voir. Faut le voir. Après 2 heures, c'était correct. Un peu comme le spectacle des geishas à Tokyo. Bref, après une demi-heure, moi, c'était correct. Là. Je les avais vus, mais bon, chacun ses affaires. Mais ce qui était drôle au théâtre de Bolchoï, c'était on était habillés à peu près de même.
T-shirt.
Puis le monde était chic. Là. C'était gênant. Là. C'était gênant, puis pas. Puis quand tu voyais qu'on parlait une langue qui n'était pas la leur, là, ils comprenaient qu'on était des touristes.
Est-ce que les Russes sont accueillants?
Moi, j'ai trouvé que oui. Ouais. J'ai trouvé que oui. Dans le Caucase, c'est plus raide un peu, parce que ça parle pas anglais.
Pas tout, OK.
Fait que, c'est mon compatriote Julien qui me le faisait remarquer. Il dit, c'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est parce qu'ils parlent pas l'anglais, puis ils veulent pas qu'on s'adresse à eux, là, parce qu'ils sont quand même fiers, puis ils parlent pas anglais, ça fait qu'ils voulaient pas vraiment qu'on leur adresse la parole. Mais dans les grandes villes, Saint-Pétersbourg, Novgorod, Moscou, ces endroits-là, c'est vraiment surprenant. Parce que moi, je pensais que c'était plus couvre-feu, c'était plus ration, c'était plus... Mais c'est très occidentalisé. Les voitures à Moscou, c'est hallucinant. Si on n'a pas vu 500 Rolls-Royce, on n'a pas vu une. Souvent avec des jeunes là, qui conduisent ça. Là. C'est assez éloquent. Les dames sont très, très, très jolies. C'est un beau peuple. C'est un peuple qui est en forme. C'est un peuple grand, blond. Pas tout blond, là, mais c'est des gens qui sont assez typiques. Puis dans l'accueil dans les restaurants, dans les endroits publics, c'était parfait. L'accueil le plus froid que j'ai vu, je pense, c'est dans le stade où on est allé voir Kiss.
Ah.
Le stade du VTB, qui est une banque russe. On arrive là. Il y a à peu près 1500 militaires qui font le tour. Une espèce de périmètre à l'intérieur de lequel tu dois passer. Puis c'est intimidant. Sincèrement, c'est intimidant. Pas de boisson, rien, pas d'alcool durant le show.
Pendant le spectacle.
Ils vendent de la bière sans alcool.
Ah ouais?
Ouais.
Fait qu'on voyait les photos, nous autres, pis on disait, ils se gâtent, eux autres, puis ils sont de Kiss.
Mais avant, ou même, mais pas pendant. Puis là, t'as la scène aussi, là, c'est, t'as du monde, t'as des gardiens, t'as 5-6 sortes de police, t'as du garda, t'as de la provinciale,
ils
t'as
ont
du
peur
local,
de quoi?
T'as l'armée. Question de foule. Ils vont gérer les foules. Puis quand ça sort, tout ce monde-là, il y a une gestion aussi. Là, c'est très particulier. C'est là que je me suis senti, je ne sais pas, le moins bien, là, mais c'est là que je me suis senti, c'est là où j'avais moins le goût de m'éclater. Là.
Côté sport, est-ce que vous avez eu le temps de voir, je sais pas moi, un match de quoi que ce soit ou de tenter le pouce sur le hockey, c'est fort ou pas?
Non, on n'a pas... le hockey est présent, tu vois. Tu vois que ça existe, le hockey. On est allé aux installations. Il y avait comme une espèce d'installation olympique à Moscou. Parce qu'ils vont avoir les Jeux olympiques, je pense, c'est l'an prochain. Puis là, tu avais toutes sortes d'athlètes, puis toutes sortes de monde. Il y avait du soccer, il y avait des gens qui faisaient de la gymnastique, du patin. Tu vois, il y avait du monde en forme dans ce secteur-là, là, l'haltérophilie, puis à tapeux, là. Pis on a fait ça en vélo. On a fait le tour de Moscou en vélo, en bicycle.
C'était-tu des bicycles de location style Bixi?
Ouais, il y en avait des styles Bixi, mais nous, on a pris genre style Tower Balloon, là, des vieux, genre vieux vélos, mais très, très solides.
OK.
Puis on a fait le tour, il y a à peu près 16 ponts à Moscou, on a fait tout le tour des ponts. Puis on est revenu par le côté est, puis on est parti du côté ouest. Fait qu'on est allé dans la nouvelle ville, là, où il y a plein de beaux gratte-ciels complètement inimaginables. Puis on est revenu là pour s'arriver jusqu'à Place Rouge. Pour terminer là, c'est vraiment... Ça a été une super bonne idée là, de faire ça à vélo. C'était vraiment extraordinaire.
Vous n'êtes pas à votre premier voyage. On a déjà parlé, entre autres, du Japon récemment. Puis, regarde, Globetrotter, à un moment donné, des voyages, ça impressionne encore, mais je veux dire, c'est moins stressant un petit peu. Je me suis déjà fait dire, Moscou, tu vas pas là si t'as pas quelqu'un avec toi qui parle russe.
Non.
Non?
OK. Moi, j'avais mon pocket talk. On l'a pratiquement pas utilisé. Parce qu'avec l'anglais, tu fais ce que tu veux, tu vas partout. Okay. Même à Novgorod, là, une ville impériale peu connue, on est allé dans un bar à un moment donné pour chercher un restaurant. Puis le serveur nous a répondu en anglais, un anglais super. Et à un moment donné, il nous a même adressé la parole en français.
Ah oui?
Oui, il y a des racines de françaises en Russie. Là. Va savoir pourquoi. Là, c'est probablement des histoires de conquête, mais ça parle relativement le français. Pas beaucoup, là, mais plus qu'on peut penser. Donc, avec l'anglais... Il n'y a pas de problème. Puis moi, je vous dis, ça vous prend un visa pour aller en Russie, mais il n'y a pas de problématique au niveau sécuritaire. Il y a un bon dépaysement, mais il n'est pas nécessaire. Ça va être plus dans le Caucase, là, aux frontières géorgiennes, puis que tu vas voir que tu n'es pas chez vous, là, dans les montagnes, c'est austère.
Mais
c'est...
si tu restes, tu sais, souvent les voyages sont. Tu vises Moscou, Saint-Pétersbourg.
Saint-Pétersbourg, ouais. Là, c'est magnifique. C'est une ville qui est monumentée. C'est très propre. J'ai été impressionné de la propreté, du souci du classement. C'est vraiment des villes, là, puis c'est monumenté. Il y a des ponts, il y a des immeubles. Chaque immeuble a quelque chose à dire. Ce qui est un petit peu tannant, c'est les écriteaux. Parce que tu peux... Tu sais, des fois, c'est en anglais ou en allemand ou en espagnol, tu réussis à lire un peu. Mais là, l'alphabet cyrillique... tu comprends pas grand-chose. À part le café, là, ou...
La bouffe, c'est-tu pas bien? La nourriture?
La bouffe, moi, au début, je trouvais ça bon. À un moment donné, les gars m'ont fait comprendre qu'on mangeait pas bien, là, parce que c'était des crêpes, puis toutes sortes de crème au fromage. Mais de façon générale, c'est très bon. On mange très, très bien. L'agneau, du bœuf, le poisson... c'est vraiment là, puis c'est des restaurants, écoute, à Saint-Pétersbourg puis à Moscou, on faisait sur Internet avec notre ami Jérémy, qui était notre guide au niveau restaurant et hôtel. Jérémy nous trouvait toujours des restaurants extra, super, on n'a jamais levé le nez sur rien, c'était vraiment, je vais retourner en Russie, c'est sûr.
Ça donne le goût.
C'est sûr que je vais retourner là.
Prochain sommet? Est-ce que déjà ça a commencé à discuter de ça?
On en a parlé un peu, moi puis Julien. L'équipe, c'est sûr que moi, je repars avec cette équipe-là. Okay. Demain matin, il n'y a pas de problème. Écoute, dans les 7 summits, là, on en a 2 de fait. Sur les 5 qui restent, il y en a 3 très accessibles. Il
okay.
y en a 2 qui vont être plus difficiles. Il y a le Denali qui est quand même un 6100 mètres de glace dans l'Alaska. Il y a l'Everest, évidemment, 8842. Mais pour la Concagua, c'est quand même 6900 mètres, mais selon mes sources, puis selon ce qu'on a fait, puis selon nos capacités, c'est très faisable. Le Vinson en Antarctique, 4800 mètres, c'est très faisable. Tout est une question de météo dans ces secteurs-là. Puis le Kartens Pyramide en Indonésie, 4800 mètres sec, très faisable. Donc, il y a de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Qu'est-ce sera le prochain? Je peux pas te dire. Aujourd'hui, je peux pas te dire. Mais pour ma part, il va en avoir un autre. Ça, c'est clair. Puis quand Dieu me donne la santé, je vais continuer. Puis ça me maintient dans une forme physique qui, autrement, là...
Quand il y a des objectifs, souvent, ça...
C'est pas un secret, là. S'il y a pas trop d'objectifs, je suis un peu oisif, là. Je m'en cache pas, là.
Mais là, vous êtes en bonne shape, là.
Ah oui.
À l'œil de même, là, ça a l'air...
Oui, j'étais en bonne condition physique, ça a bien été. Puis, tu sais, tu peux pas faire l'Elbrou si t'es pas en bonne forme puis en bonne santé, c'est impossible.
Maître Quentin, merci beaucoup. Bonne fin de semaine du Canada.
Vous autres aussi, on est fait du bateau.
Yes, sir. Bonne fin de semaine.
OK.
Pour nous joindre via messagerie texte...